Le sens des choses.
Stéphanie Bonvicini.
Jacques Attali. Bonjour, nous sommes très heureux avec Jacques Attali de vous retrouver pour cette série d'émissions durant lesquelles, au cœur de l'été, et avec nos invités, nous réfléchissons à la question de quoi manger est-il et sera-t-il le nom ? Nous sommes cet après-midi en compagnie de Frédéric Salman, médecin cardiologue, spécialiste des questions d'hygiène alimentaire. Frédéric Salman, bonjour.
Bonjour.
Alors votre dernier livre, Votre santé sans risque, paru chez Albin Michel, porte le sous-titre « Vous êtes une force de la nature ». Alors c'est une expression qu'on a banalisée mais que je trouve très puissante. Et je me demande en fait si à l'avenir ce ne sera pas l'inverse et si pour la survie de l'humanité, c'est-à-dire continuer à se nourrir sainement mais surtout tous se nourrir, ce ne sera pas nous qui devrons donner notre force à la nature.
Oui, on arrive à un moment très paradoxal. C'est-à-dire que pendant très longtemps, les gens se sont battus, ont lutté pour pouvoir se nourrir avec leur force. Et aujourd'hui, cette abondance nous nuit. Vous savez, moi, je m'intéresse beaucoup à un sujet qui est le jeûne séquentiel. Qu'est-ce que c'est que le jeûne séquentiel ? C'est pendant 12 à 16 heures, vous décidez d'arrêter de vous alimenter. Vous buvez beaucoup d'eau, de la tisane, du thé, des choses comme ça. Vous arrêtez de dîner, par exemple, à 21h et on déjeune à 13h. En fait, à ce moment-là, vous apercevrez que le teint est plus clair, on est plus tonique, moins d'asthme, moins d'allergies, moins de rhumatisme. Qu'est-ce qui se passe? À chaque seconde, on produit 20 millions de cellules pour remplacer nos cellules usées ou mortes. Et le problème, c'est que plus on avance en âge, plus le nombre d'erreurs de copie augmente, donnant lieu, par exemple, à des cancers. Eh bien, quand on jeûne, on renforce son ADN, on diminue le nombre d'erreurs de copie. Ça fait aussi moins de cancers. Chez les souris, on les a fait jeûner dans le laboratoire. Un jour par semaine, elles ont fait tout de suite 20% de cancers en moins. En fait, ce qui est très intéressant, c'est que toutes les religions, depuis le début de l'humanité, parlent de jeûne comme un message du fond de la nuit des temps, pour réactiver une mémoire biologique ancienne. Et en fait, quand on jeûne de cette façon-là, on laisse au corps le temps de se réparer, de régénérer, de souffler un petit peu. Donc, c'est comme pour lutter contre une obsolescence programmée.
Frédéric Salman, on va reparler de votre propre carrière et votre vie pour mettre en perspective tout ce que vous dites, mais je reste une seconde là-dessus. C'est-à-dire concrètement, une des recommandations que vous faites ici, c'est de dîner tôt, de ne plus rien manger de solide après 21h, de ne pas prendre, contrairement à ce qu'on nous recommande d'habitude, un petit déjeuner consistant, mais juste un café ou un thé, et déjeuner à 13h.
Oui, alors disons que l'idée, oui, mais c'est de prendre 2 repas par jour et pas 3. Certains peuvent sauter le dîner, ou d'autres le déjeuner. J'étais hier avec un ami Claude Lelouch, et il m'a dit une phrase que j'ai beaucoup aimée, il m'a dit, tu sais, je manque jamais une occasion de sauter un repas. Ça m'a bien plu. En fait, depuis toujours, depuis la nuit des temps, on était à 1 repas, peut-être 2 repas par jour. Mais 3, 4, on sait pas faire. On sait faire face au manque, mais pas à l'excès.
Alors, je voudrais d'abord mettre en perspective votre propre carrière pour voir pourquoi vous êtes devenu spécialisé dans ce domaine, pourquoi vous êtes un gourou qui vend des livres en millions d'exemplaires à travers le monde sur le sujet, pourquoi vos recommandations qu'on va essayer d'entendre autant que possible sont aussi écoutées et aussi sages. Vous-même, vous êtes un ancien gros.
Ben oui, puisque, je vais vous l'avouer, je faisais 25 kilos de plus, c'est simple, il y a 25 ans. Et un jour, je décide, les médecins sont parfois les plus mal chaussés, je me fais un bilan. J'ai du cholestérol, j'ai du sucre, j'ai de l'acidurie et j'ai de la tension. J'en parle avec un de mes collègues parce qu'on ne peut pas se sculpter soi-même. Il me dit, bah, écoute, ça va te faire 4 cachets par jour. Je lui dis, jamais. J'ai perdu 25 kilos et je n'ai jamais eu besoin de prendre des comprimés. Et cette expérience de terrain que j'ai vécue...
Et vous avez perdu 25 kilos par le seul exercice de la volonté.
Alors, il y a la force du mental, mais il y a aussi des petits trucs à connaître. C'est-à-dire que perdre du poids, c'est facile. Ne pas en reprendre, c'est autre chose. Je vais vous donner un chiffre qui parle de lui-même. 95% des gens qui font un régime et qui perdent du poids regrossissent dans les 2 ans. Donc, ça veut dire que tout va être en comment faire. Alors, il y a plein de petits trucs très simples qui marchent et qui vont faire que les sujets ne vont jamais, tout comme moi, reprendre leur poids d'origine.
Alors, on va passer en revue tout ça. Est-ce que vous pourrez d'abord mettre en perspective la nourriture par rapport au reste des dimensions de la santé? En quoi l'alimentation est un facteur essentiel, fondamental ou principal ou secondaire dans l'espérance de vie?
Déjà, Hippocrate avait senti les choses venir quand il dit « De la nutrition, tu feras ta médecine ». Effectivement, si on joue bien la partie en termes de nutrition, on va vivre beaucoup, beaucoup plus longtemps. 30% de calories en moins, c'est 20% de vie en plus. Alors, bien évidemment, on a beaucoup évolué en nutrition, en ce sens qu'on calcule les calories d'un côté, mais maintenant beaucoup les index glycémiques aussi. Qu'est-ce que c'est qu'un index glycémique? C'est très simple. C'est que vous prenez par exemple de la pastèque, c'est 24 calories, c'est sucré. Vous dites c'est léger, 24 calories. Mais en fait, quand vous mangez cette pastèque, ça fait sécréter par le pancréas de l'insuline à fond. Il y a du sucre va se transformer en graisse et ça crée de l'inflammation. À l'inverse, si je prends de l'avocat, l'avocat a un index glycémique proche de zéro. Il n'a aucun effet justement à ce niveau inflammatoire. Et même mieux, quand on prend de l'avocat avec par exemple un burger frites, pour moi c'est vraiment ce qu'il ne faut pas faire, l'avocat va baisser de 30% l'inflammation digestive. Donc en fait, il faut choisir ses aliments, choisir sa nutrition. En fait, on peut conditionner sa qualité de vie par rapport à ce qu'on va manger.
On va revenir là-dessus, mais l'espérance de vie est liée à ce qu'on mange.
Oui, clairement.
Alors comment est-ce que vous voyez le repas idéal pour vivre jusqu'à 100 ans? Qu'est-ce que ce serait?
D'abord, ça ne serait pas 100 ans, ça serait 120, parce que je considère que toute mort avant 120 ans est une mort prématurée. Alors je vais parler de 120. Le repas idéal, d'abord, c'est essentiel, c'est de manger quand on a faim. Si vous mettez à table et que vous n'avez pas faim, vous allez trop manger déjà. Ça n'a aucun sens. Laissez les signaux de la faim réapparaître. Ne vous mettez pas à table parce que c'est l'heure de manger. Ça n'a aucun sens.
Oui, mais ça peut entraîner de grignoter tout au long de la journée, si on a faim.
Écoutez vos signaux. Ça, c'est le premier truc. Deuxième point, il est important de manger lentement. Si vous mangez vite, d'un coup, vous allez trop manger trop rapidement. Il y a 2 façons de s'arrêter de manger. La première, vous mangez rapidement et vous arrêtez quand vous sentez les barorécepteurs, c'est les récepteurs à la pression dans l'estomac qui sont distendus, on n'en peut plus, on a beaucoup trop mangé. Ou alors, au milieu d'un plat, vous attendez 3 minutes exactement avant de continuer ou avant d'en reprendre. Et là, vous allez voir, une fois sur deux, c'est fini, vous n'avez plus envie. Et vous avez fait cette expérience au restaurant. Quand on attend trop longtemps un plat ou un dessert, eh ben on n'a plus envie. On a activé dans le cerveau le centre de la satiété. Donc, il y a une multitude de petites choses. Déjà, mieux manger, c'est lentement. Écouter les signaux de la faim, c'est déjà le début. Troisième sujet, contrairement aux idées reçues, boire 2 grands verres d'eau avant de commencer, c'est important, de bien s'hydrater. Donc, commencer par boire, prendre son temps, va faire qu'on va réguler la quantité. Vous savez, aujourd'hui, on meurt d'excès. On ne meurt pas de famine. On ne meurt pas de carence. Donc, quand quelqu'un est à 2 repas au lieu de 3, il risque rien. Mais d'être à 3-4 repas, là, il risque davantage. Par trop d'alimentation qui crée... Il faut savoir que l'obésité, c'est à l'origine des maladies cardiovasculaires, mais aussi des cancers. C'est une très grande cause de cancer. Colon, prostate, etc., sein. Donc, prendre moins de calories et mieux les choisir aussi. Il y a aussi des habitudes qu'il faut éviter. L'alimentation, c'est bien plus que ce qu'on sert. Je vous donne un exemple. J'ai vu une patiente, malheureusement, il y a à peu près 6 mois, jeune, 48 ans, et elle vient, je la voyais pour la première fois, je tombe sur un cancer de l'œsophage. Mais redoutable, et de ces cancers dont on a du mal à s'en sortir. Elle dit, mais je comprends pas, je mange très sain. Je fais très attention. Je lui dis oui, mais vous buvez très chaud, brûlant. Et quand on boit brûlant, eh bien, tout simplement, c'est un facteur de cancer de l'œsophage. Donc c'est une question parfois de détail, la nutrition. Un autre exemple, je voyais un sujet qui avait un cancer du côlon, par rapport à une alimentation qui avait l'air à peu près équilibrée, eh bien, il me dit, oui, mais je prends que des poissons, des légumes, des choses saines. Mais je dis, comment vous... Il a une maison avec un grand jardin, je vous fais beaucoup de barbecue. Il me dit, oui. Je dis, vous adorez manger brûlé, grillé, quand c'est noir. Il me dit, oui, comment vous le savez? 3 cm de croûte brûlée, ben, c'est comme fumer 200 cigarettes à chaque fois. Donc, le mode de préparation, tous ces petits détails de rien du tout, si vous prenez... L'habitude, une pomme, c'est très sain. D'ailleurs, on dit une pomme chaque matin éloigne le médecin. Et Churchill disait d'ailleurs, oui, à condition de bien viser. Eh bien, je vais prendre...
Et parce qu'il disait aussi no sport.
No sport, il y avait tout. Il ne nous a pas loupé. Eh bien, quand on prend une pomme, si on l'épluche, on se débarrasse déjà de 90% des pesticides. Et si vous voyez des taches... Marron dans une pomme, c'est de la patuline, c'est un cancérigène, il faut l'enlever au couteau aussi. Donc d'une simple pomme avec un couteau, on en fait un produit très sain. Ne mettez jamais un zeste de citron dans votre thé ou votre soda, parce que tout simplement le citron, l'enveloppe est bourrée de pesticides qui sont transparents, mais s'ils étaient noirs, ça serait tout noir. C'est des pesticides extrêmement toxiques. Donc c'est en permanence avoir les bons réflexes pour manger plus sain et se faire du bien. Donc, c'est pas seulement la quantité, c'est aussi les modes de préparation. En fait, mon rêve, ça serait qu'on enseigne à l'école comment bien s'alimenter. Et les gens, quand je regarde au restaurant, le nombre d'erreurs que je vois, les gens qui se mettent à saler avant de goûter, trop de sel, c'est augmenter l'hypertension artérielle, les cancers de l'estomac, et même, on vient de découvrir que c'est un facteur de sclérose en plaques. Donc, le sucre, si vous voulez vous débarrasser du sucre, eh bien, commencez par ne plus mettre de sucre dans le thé ou le café. Pendant 3 semaines, c'est pas bon. Et puis, au bout de 3 semaines, si quelqu'un, pour vous faire plaisir, met du sucre dans votre thé ou votre café, on peut plus le boire, on trouve ça écœurant. Et ça fait partie des outils que j'utilise pour que les gens ne regrossissent plus jamais. On modifie les seuils physiologiques dans le cerveau.
Alors, vous venez de définir toute une série de pratiques terrifiantes qu'on a tous. Hein. Il nous arrive tous de boire un café brûlant, une soupe ou de manger du chocolat.
Non, le chocolat, c'est très bon.
Alors, je voulais vous faire venir à qu'est-ce qui fait plaisir et n'est pas nocif.
Bon, il y a un aliment que j'adore, c'est le chocolat noir. D'ailleurs, alors, s'est intéressé pendant longtemps au French Paradox. On sait pourquoi les Français font 6 fois moins d'infarctus que les Américains, on fait beaucoup moins d'infarctus qu'aux États-Unis. Et d'ailleurs, il y a assez longtemps, j'ai été nommé professeur aux États-Unis en nutrition par rapport à cela, pour travailler sur le French Paradox. Parce qu'ils voulaient un autochtone, un local.
Un indigène.
Un indigène. Et en Californie, bon, j'ai enseigné là-bas, justement là-dessus. Alors, on s'intéressait beaucoup au vin rouge. Parce qu'on se dit un verre de vin rouge à chaque repas participe à ce French paradoxe. Mais on a découvert récemment, et c'est les Allemands, que les Français consomment 6 fois plus de chocolat noir que les autres pays. Et le chocolat noir, si on en prend 2 carrés par exemple tous les jours, assez noir au-delà de 80%, baisse de 2 points la pression artérielle. Les artères sont plus souples, c'est plus fluide. Donc, le chocolat noir et le vin rouge.
C'est le chocolat noir, c'est-à-dire vraiment noir.
Oui, vraiment noir. Alors, si on prend du 100%, c'est très mauvais. Mais c'est un coupe-faim formidable qui chute la gréline, qui est l'hormone de l'appétit.
Je témoigne que ce que vous dites est vrai.
Mais ça coupe l'appétit. Et tous ces coupe-faim naturels sont très utiles. Surtout
alors, quelle autre nourriture qui fait plaisir recommandez-vous?
Alors là, j'en ai plein. Par exemple... Commencez le repas par le dessert. Si vous prenez, pour commencer, une banane qui tient un peu de chocolat fondu dessus, c'est un missile anti-kilo.
Ah oui.
Parce que si on prend le dessert en début de repas, ça active ce qu'on appelle la glucokinase, qui est une hormone qui fait chuter l'appétit Et on a un énorme coup de frein avant de commencer.
Donc si on prend le dessert après le repas, à la fin, ça vient de l'idée qu'il s'agit de vraiment
la fête
finir.
Est finie.
Oui, c'est ça.
Mais si on fait la fête est finie avant qu'elle commence, ouais. On donne un coup de frein. Un autre exemple, c'est les aliments retard. Alors qu'est-ce que c'est que les aliments retard? Prenez 3 sardines. 250 calories, c'est rien du tout. Eh bien, on met 9 heures pour qu'elles sortent de l'estomac. 9 heures. Alors qu'un poisson blanc légume, en 1h30, il est sorti. Ça veut dire que si vos sardines, vous les gardez toute la journée dans l'estomac, vous prenez un peu de poivron cuit, pareil. La pomme, vous mettez de la cannelle dessus, ça retarde complètement la vidange gastrique.
Et alors, si ça retarde la vidange gastrique, c'est bon ou c'est pas bon?
C'est bon parce que vous avez pendant 9 heures l'estomac plein en ayant très peu mangé.
Donc, il faut pas manger de poisson blanc, contrairement à ce qu'on croit, mais les sardines bien grasses.
Sardines, c'est formidable. Macro, les sardines. Vous allez en profiter pendant 9 heures, vous n'avez pas faim. C'est ce qu'on appelle les aliments retard et qui sont extrêmement utiles. Donc, en fait, c'est énormément de toutes petites choses qu'il faut savoir utiliser qui vont permettre qu'on reprenne la main sur l'appétit.
Alors, docteur Salman, vous n'avez pas répondu à ma question tout à l'heure. Le repas idéal pour vivre jusqu'à 120 ans. Avec tout ce que vous venez de nous dire, ce serait, on commence par une banane avec du chocolat.
Non. Alors, d'abord, le repas idéal...
On commence par
je vais vous décevoir, mais il n'existe pas. Parce que d'abord, ça tient compte de vos goûts et de votre culture. Mm-hmm. Donc, le premier repas, vous allez choisir. Je préfère quand même qu'il y ait des fibres. Donc, qu'il y ait des légumes. C'est excellent pour la santé. Choisir des légumes au repas, c'est bien. Un petit peu de protéines, un petit peu de poisson. Viande rouge, une fois par semaine,
suffisant.
C'est très bien. Il y a des aliments que charcuterie, il faut vraiment, vraiment freiner. Mais je vais ajouter une chose. Il y a une façon de s'alimenter à 20 ans et une façon de s'alimenter à 50 ans et plus. Parce que, imaginez, est-ce que vous connaissez beaucoup d'automobiles qui ont 50 ans et qui roulent tous les jours? Il n'y a pas beaucoup, avec les filtres d'origine? Très peu. Nous, on n'est pas en acier. On a nos filtres d'origine qui sont le foie, les reins, et ça doit tenir. Et moi, je vois à l'hôpital, combien
vous
de fois je fais...
l'hôpital Georges Pompidou,
je fais une échographie, et je vois un foie gras. Le foie gras, on sait que c'est un facteur de risque de cancer. Ça veut dire que le foie... Ça ressemble à un foie gras de oie ou de canard. Ça veut dire que le foie a du mal à filtrer. C'est le filtre qui filtre les cancérigènes, toutes les cochonneries. Il est saturé parce qu'on a trop mangé. Pour info, quand on fait un régime... Pour les gens qui ont tendance à manger gras et pas mal d'alcool, il faut 500 jours pour refaire un foie neuf. Donc, autrement dit...
Quel que soit l'âge.
Quel que soit l'âge, à condition qu'on n'ait pas été trop loin. Et c'est important parce que quand, de temps en temps, j'entends les cures détox éclair, ça m'énerve. Ça m'énerve au plus haut point parce que, attendez, cure détox, qu'est-ce que ça veut dire? Quand il faut 500 jours pour nettoyer un filtre, c'est du marketing, c'est de la pub, mais on n'est plus dans la médecine. Donc, quelque part... Le repas idéal, il faut éviter de trop le saler, de le diversifier. C'est pour ça que l'idéal, ça serait toujours la même chose. Pas du tout. Il faut changer tout le temps. Par exemple, si on prend les légumes, soyez très large. Pour une autre petite raison, c'est que parfois, vous avez des pesticides. Et si vous diversifiez, vous n'allez pas prendre toujours le même. Il y a des fruits plus sensibles aux pesticides que d'autres, comme les fraises, alors que dans les kiwis, il n'y en a jamais, parce que c'est des fruits très résistants d'entrée de jeu et qui sont bourrés de vitamines.
Je vous ai apporté des bonbons parce que les fleurs, c'est périssable. Puis les bonbons, c'est tellement bon, bien que les fleurs soient plus présentables. Surtout quand elles sont en bouton. Mais je vous ai apporté des bonbons. J'espère qu'on pourra se promener, que madame votre mère ne dira rien. On ira voir passer les trains à 8 heures. Moi je vous ramènerai. Quel beau dimanche, allez, pour la saison. Je vous les ai apportés des bonbons. Si vous saviez ce que je suis fier de vous voir pendu à mon bras, les gens me regardent au travers, il y en a même qui rient derrière moi. Le monde est plein de polissons. Je vous ai apporté des bonbons.
Jacques Brel, les bonbons. Nous sommes avec Frédéric Salman. Docteur, est-ce qu'il faut toujours choisir des aliments qui sont bons pour la santé, ou est-ce que parfois il ne faut pas se faire plaisir et manger des bonbons?
Alors, les bonbons, c'est de la provoque, votre chanson. Hein. Je dirais que, vous savez, aujourd'hui, un enfant de 7 ans a consommé autant de sucre que son grand-père durant toute sa vie. C'est beaucoup.
C'est pas l'inverse.
Non. Il a consommé autant de sucre à 7 ans qu'un grand-père dans une vie entière.
Je pensais qu'aujourd'hui, on faisait beaucoup plus attention
au sucre. Non. En fait,
sucre.
Il y avait des sucres qu'on voit, mais des sucres partout.
Et est-ce que vous pourriez mieux expliquer la distinction entre sucre rapide et sucre lent?
Oui, par exemple, le sucre rapide, c'est le sucre blanc qu'on voit. Et le sucre lent, ça va être les sucres qu'on a, par exemple, dans les pâtes. Alors, on a besoin de sucre pour vivre. Notre cerveau a besoin d'oxygène, de sucre, mais pas trop. Parce que trop de sucre, ça aboutit bien sûr au diabète, mais aussi plus de rides. Vous savez, à l'hôpital, quand on fait un PET scan, c'est pour rechercher des cellules cancéreuses. Comment on fait avant de faire ce scanner très sophistiqué? On injecte une intraveineuse de sucre, et s'il y a des cellules cancéreuses, elles rappliquent tout de suite. Elles adorent le sucre. Donc à un moment donné, il faut mettre la pédale douce sur le sucre.
Rapide et lent, ou seulement rapide?
Les deux. Pour les rapides, si on peut les éviter, surtout, je veux dire, quand je vois un jeune qui, il y a 20 ans, il peut tout se permettre. C'est tellement neuf, ses fils sont tellement beaux, qu'on peut y aller. C'est comme, il peut être pied au plancher, ça va. Mais quand on avance en âge, il faut la jouer autrement, la partie. Et le sucre fait partie des aliments, si on le prend en excès, surtout si on a plus de la cinquantaine, qui va vraiment créer des problèmes. Donc, les sucres rapides, on s'habitue, comme je le disais tout à l'heure, à ne plus mettre de sucre dans le café ou le thé, ainsi de suite. Et d'ailleurs, quand on fait ça, on va trouver tout le reste un peu trop sucré.
Donc, plus de sucre, plus de gâteaux.
Alors, les gâteaux, il y a des façons de les faire. Pour justement, on peut en prendre de temps en temps, pour des occasions, mais pas au quotidien.
Et les sucres lents?
Les sucres lents, alors, par exemple, si vous prenez du riz, des pâtes, des choses comme ça, si vous les prenez complets, ça va être moins, entre guillemets, sucre lent, parce que vous avez des fibres qui vont amortir le phénomène. Donc, choisissez des aliments complets dans ce cas-là, qui vont être beaucoup moins, entre guillemets, effet sucre lent.
Est-ce que vous arrivez à suivre toutes ces recommandations?
Alors écoutez, comment je fonctionne? Au quotidien, oui, je pratique, je prends 2 repas par jour.
Que je varie. Lesquels?
Ça dépend. Par exemple, ce matin, je n'ai pas pris de petit déjeuner. L'autre jour, je n'ai pas pris de dîner ou de déjeuner. Mais jamais plus de 2 repas. Je laisse à mon corps le temps de se réparer, de régénérer. Et puis, au quotidien, je mange très simplement. Je choisis par exemple l'avocat, si vous voulez savoir. À chaque repas quand je suis à la maison, parce que c'est un aliment qui est un vrai baume des intestins, qui diminue l'effet inflammatoire. Et puis, je vais choisir de prendre quelques légumes, très simplement.
Mais est-ce que vous faites attention à vous faire plaisir?
Alors, oui. Alors, de temps en temps...
J'en reviens en bonbons.
Non, parce qu'en fait, quand on s'habitue à plus de sucre, ça me fait plus plaisir. Par contre, quand je suis invité, si c'est bon, je me lâche avec grand plaisir, mais que pour des choses... Je respecte trop mon corps pour m'abîmer avec des choses. Je mérite mieux que ça. Je vous donne un exemple. Je prends jamais les croissants, j'en prends pas. Il faut 7 kilomètres en jogging pour perdre l'équivalent d'un croissant.
J'ai lu ça dans votre livre. 45 minutes de jogging pour éliminer un croissant.
7 kilomètres. Et puis, j'en prends pas. Et puis, je me trouvais à Londres il y a quelques mois. Et puis, je vois des croissants qui arrivent. Ils avaient vraiment une super tête. Et puis quelqu'un me dit, tu te ferais goûter. Je goûte, je tombe sur un croissant merveilleux. Ce que j'avais dans mon enfance. Parce qu'aujourd'hui, les croissants arrivent souvent surgelés, on les chauffe. Là, c'est vrai qu'il est poussé lentement. J'en ai pris 3, et qu'est-ce que ça m'a fait plaisir. Mais c'était un tel goût tellement formidable. J'ai demandé au garçon qui m'explique. Il m'a dit, bah oui, on a un boulanger fou de croissants qui fait ça à l'ancienne. Il laisse pousser toute la nuit. C'est son truc. Que suite à ces croissants merveilleux, je suis incapable d'en prendre d'autres maintenant.
Vous n'avez pas culpabilisé.
Non. Alors, c'est l'échelle du plaisir
qui m'égule. Vous venez d'évoquer l'activité physique. Est-ce que faire du sport et permet d'éliminer les erreurs qu'on a pu faire en mangeant, ou est-ce que faire du sport doit être tout à fait nécessaire pour d'autres raisons particulières et cardiaques, ou est-ce qu'au contraire, faire du sport donne faim?
Frédéric Salmon.
Je veux dire que l'activité physique, elle est essentielle. Mais, premier point, elle ne fait pas maigrir. Pour une raison très simple, c'est que quand quelqu'un qui fait, mettons, 1m70, 70 kg, il peut être gros ou mince. Pourquoi? La graisse, c'est léger. Les muscles, c'est lourd. Et donc, quelqu'un qui est en muscle, il peut faire 70 kilos.
D'où le fait qu'on mesure l'indice musculaire aussi.
Et il y a des balances, maintenant, on monte dessus, et on a le rapport gras-muscle. Et on voit les efforts. Donc, ça ne fait pas maigrir. Deuxième point, est-ce que ça donne faim? Parfois, un petit peu. Ça peut ouvrir l'appétit, mais pas toujours. Loin de là. C'est indépendant de maigrir, mais par contre, c'est vital. 30 minutes d'exercice physique par jour diminue de 40% cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire. Et s'il y a eu un petit pépin d'antécédent, c'est 40 le ticket. Ce n'est pas de temps en temps. Si vous me dites je fais du sport le week-end, je veux dire vous lavez les dents que le week-end. Non. À un moment donné, surtout s'il y a eu un petit antécédent, on n'a plus les moyens de ne pas en faire.
Donc 7 jours sur 7.
Alors pourquoi? Parce qu'on a découvert que quand on fait de l'exercice, les 20 premières minutes on brûle le sucre, c'est après qu'on brûle les mauvaises graisses, mais surtout, on libère 1004 molécules protectrices comme l'irisine. Et ces molécules, elles n'ont que 24 heures d'action. C'est comme si on prenait le meilleur médicament du monde, qui est pour moi l'exercice physique. Et au bout de 24 heures, il faut en reprendre un autre comprimé. Et le comprimé là, c'est de s'y remettre. Donc, c'est non négociable. C'est tous les jours pour continuer.
Quelle que soit l'heure.
Alors, si on le fait le soir, il y a un tout petit bémol. C'est que ça va élever un petit peu la température du corps d'un demi-degré. Et on risque de mal dormir. Parce que pour bien dormir, il faut que la température baisse. Alors, à ce moment-là, mon conseil, c'est une douche froide de 2 minutes.
Après,
on commence par se laver avec l'eau chaude, on finit à la douche froide, ça baisse la température et on dormira comme un bébé.
Frédéric Salmon, vous nous avez expliqué que vous n'ayez pas les médicaments. Je l'ai compris aussi dans votre livre. Qu'est-ce que vous pensez de cette appellation d'alicament pour les aliments qui ont une excellente valeur nutritionnelle et qui sont bons pour la santé?
Alors,
c'est étrange cette appellation d'alicament qui donne le sentiment que c'est un médicament.
Moi, ça ne me tente pas. D'abord parce que, en France, il n'y a pas de carence en vitamine sauf une dont je vais parler. On n'a pas de carence. Donc reprendre des aliments bricolés, je ne vois pas vraiment l'intérêt. Sauf la vitamine D. La vitamine D, on l'attrape par le soleil. Certains aliments comme le foie de veau, je ne suis pas très partant de cet aliment. Donc on la dose. Quand on en manque, on prend 3 ampoules de vitamine D. Et on compense parce que le manque de vitamine D augmente les risques de cancer et de maladies cardiovasculaires. Donc, à part la vitamine D qu'il faut contrôler et rééquilibrer, les alicaments, personnellement, ce n'est pas ma tasse de thé. Je ne suis pas contre les médicaments, mais j'en prescris quand vraiment, vraiment, je n'ai pas le choix. Là, j'en prescris.
Oui, c'est le dernier recours.
Oui, quand il y a des cas où on n'a absolument pas le choix, on y va. Mais chaque fois, j'ai le choix, et ça marche très bien, parce que quelqu'un qui démarre, prenons l'exemple de quelqu'un qui a trop de cholestérol. Il y en a certains, ils prennent leur comprimé pour le cholestérol comme une hostie et ils se disent, ça y est, je peux manger, c'est plus la peine que je fasse d'exercice, je me laisse aller. Et le jour où ils ont un pépin, un infarctus, une hémiplégie, un cancer, ils disent, mais je ne comprends pas, je prenais bien mes médicaments, qu'est-ce qui s'est passé? Le cholestérol, c'est un facteur de risque par rapport à 20 autres.
Est-ce qu'on peut, à partir de ce que vous venez de dire, essayer de voir, à votre avis, comment l'alimentation va évoluer dans les 10-20 ans? Et quelle est la politique de prévention individuelle ou publique qu'il faudrait faire, et le rôle des compagnies d'assurance dans ce domaine?
Alors, il y a des grandes évolutions qui vont se faire. Je pense que, de plus en plus, la nutrigénétique va apparaître. C'est-à-dire que on est différents les uns des autres. Un aliment fait du bien à l'un et pas à l'autre. Je pense qu'on arrivera un de ces quatre à avoir notre code génétique et avoir des aliments qui correspondent mieux. Ça, on est dans le futur, peut-être dans 20 ans, mais c'est une direction. Le deuxième élément, en dehors de la nutrigénétique, c'est que moi, je suis assez content parce que je m'aperçois que les gens, vous savez, ils vont plus vite que les pouvoirs publics, ils vont plus vite que les industriels ou que n'importe quoi. Regardez l'exemple du thé ou du café. Quand je pose la question, quand je fais une conférence, qui met du sucre dans son thé ou son café? Plus de la moitié des gens lèvent la main. Ça veut dire que sans...
Qui ne met pas.
Qui n'en mettent plus. Et ça, ça s'est passé en 5 ans, où d'un seul coup, les gens spontanément ont dit on arrête. Et je peux vous dire que quand quelqu'un arrête de mettre du sucre, il ne pourra plus en reprendre. Et le petit carré de chocolat qui était avant au lait, maintenant est devenu noir. C'est-à-dire que tous les goûts autour deviennent trop sucrés. Là, je suis optimiste. Ça veut dire que d'un seul coup, grâce aux moyens d'information, les gens prennent les devants et votent en ne mettant plus de sucre dans leur tasse. Quelque chose est en train de se passer et les pouvoirs publics, les industriels n'ont pas vraiment entendu ces messages très puissants venant tout simplement du public.
Quelle recommandation vous feriez à ceux qui n'ont pas les moyens de mieux se nourrir ou qui doivent tenir leur budget pour qu'ils puissent... continuer de faire attention à leur santé et choisir parmi les formes d'alimentation qu'ils ont, que ce soit sous vide, que ce soit rapide, quelque chose qui puisse être un conseil que vous pourriez leur donner.
Alors,
pour ceux qui n'ont pas le choix.
Si vous n'avez vraiment pas le choix, ce qui coûte, on peut manger très simple pour vraiment très 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 peu cher. Prenons l'exemple, les légumes en conserve. Il y a autant de vitamines et parfois plus dans des légumes en conserve que des légumes frais. Pourquoi ? Parce que quand vous mettez à l'étal de l'épicier les légumes, la vitamine C est très sensible à la lumière. Donc plus ça traîne, plus la vitamine C plonge. Dans les conserves, c'est tout de suite mis en boîte et elle est intacte. Croyez-moi, les légumes en conserve, ça coûte rien du tout. On a des boîtes à 1 euro, à rien du tout. Vous prenez des sardines, tiens, dont je parlais tout à l'heure, ça coûte rien non plus. Donc on peut se faire des menus qui sont à petit prix et mangés très sainement avec des conserves, parfois du surgelé, des produits de base. Ce qui coûte cher, c'est des produits transformés. Mais dans les produits de base, moi, je vous fais un marché dans, partout où on mangera de façon, pour quelques euros, très sainement. C'est simplement une question d'éducation.
Mmh, tout à fait.
Et cette éducation... fait que vous allez mieux vous nourrir. Souvent, on voit que dans les zones très défavorisées, les gens sont en excès de poids. Ils ont beaucoup de pépins de santé. Et quand je discute avec eux, quand je leur explique que vous pouvez manger autrement, ils ne savent pas. Le premier réflexe, c'est un réflexe d'éducation, d'apprendre.
Qu'est-ce que vous recommanderiez à une puissance publique pour créer les conditions d'une meilleure alimentation ? D'interdire, d'orienter, d'éduquer ?
Alors, c'est
comme... Parce que tout ce que vous avez dit là... Au fond, on pourrait imaginer que ça devrait être enseigné dans l'école primaire, ouais. Que ça devrait être enseigné aux parents pour créer les conditions d'un bon repas de leurs enfants. Comment faire en sorte que ces évidences que vous avez dites et qui sont consensuelles chez vos confrères, pour la plupart, même s'il y a de grandes disputes entre les diététiciens qui s'entretuent pour un régime ou un autre, comment imaginer que la puissance publique puisse jouer un rôle?
Moi, je voudrais que la puissance publique, maintenant, arrête d'interdire. Quand on dit ne mangez pas gras, sucré, salé, ça n'a pas d'effet aujourd'hui. Ce que je rêve, c'est que la puissance publique devienne non pas interdit, mais autorise, comme une maman bienveillante qui informe, qui explique. Moi, je vois à travers ces livres, il y a des millions de personnes qui suivent, qui écoutent. Il y a des études qui montrent que c'est vrai. Et apprendre à s'alimenter, il n'y a pas d'aliment diabolique. Il y a simplement des façons de préparer des aliments. Quand des gens sont en excès de poids, tiens, je vous donne un exemple. Prenez une salade. Allez, je vais maigrir, je prends une petite salade. Il renverse la bouteille d'huile. Chaque cuillère à soupe d'huile, même d'olive, c'est 90 calories. Et puis, ça finit par coûter cher. Eh bien, moi, je vous propose une chose simple. Vous prenez un vaporisateur, vous mettez l'huile dedans, il y aura 20 calories au lieu d'en avoir 450.
Et le même coût.
Et ça coûtera moins cher. Parce que quelques pressions d'huile, votre bouteille, elle va faire 3 mois. au lieu de faire 15 jours, vous allez moins dépenser, il y aura le même goût et ça sera moins cher. Donc en fait, tout ça, ce n'est pas enseigné. Mon rêve, ce serait que dans les écoles, on apprenne et que les enfants apprennent aux parents.
Il y a déjà une sensibilisation très forte qui s'est améliorée par rapport à ce qu'on faisait il y a même une dizaine d'années. Les enfants sont très sensibilisés dans les écoles sur mieux se nourrir, préserver la...
Les cantines scolaires ne vous semblent pas s'être améliorées ?
Pas vraiment. Pas vraiment, parce que je suis ça à travers mes enfants. J'en ai encore une qui est au lycée. Et je dois dire que quand elle me décrit les repas, les cheveux me tressent sur la tête. Quoi. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Or, c'est le lieu. Il faudrait qu'il y ait à la fois de l'enseignement et que la pratique... Si vous expliquez comment bien se nourrir et que le plateau repas, c'est n'importe quoi, le collège, l'école perd toute crédibilité. Et là, les quelques essais qu'il y a eu, quand j'ai vu la discordance entre le plateau repas d'un côté et les quelques informations nutritionnelles de l'autre, on est n'importe où. Et je rêve qu'on fasse une vraie politique. Et ce qui serait la moins chère en termes de coût, simplement d'informer, et qui permettrait aux gens de faire des économies et d'être en bien meilleure santé, de faire des économies de santé publique.
Est-ce que vous pensez que ce qui va arriver avant même la génétique nutritive, c'est-à-dire le fait de rendre le frigidaire intelligent, de savoir ce qu'il y a dedans, de vous conseiller, est-ce que vous pensez que c'est une bonne orientation ? Est-ce que ça va être orienté par des nutritionnistes ou par des entreprises qui vont vouloir pousser à la consommation ? Comment vous voyez cette évolution-là ?
Frédéric Salmann.
Je pense que par rapport aux allergies, ça va être utile.
Aux allergies.
Aux allergies, parce que les allergies, ça monte sans cesse. Et donc, d'éviter des pépins, tout simplement, parce que les gens ne savent pas qu'ils sont allergiques ou intolérants, donc on va être beaucoup plus précis. Et ça, c'est formidable.
Oui, mais pour avoir les allergies, il faut avoir une connaissance assez précise de chacun. Donc,
par exemple, vous avez en ce moment la mode du sans gluten. Bon, ça m'énerve un peu, parce que les gens réellement intolérant au gluten, c'est un Français sur 100. C'est tout. Et tous les autres se mettent au régime pour des prunes.
Est-ce qu'on peut être certain que quelqu'un est allergique au gluten, justement?
Oui,
il y a une polémique autour
de
ça.
Il y a des tests. Quand quelqu'un me dit j'ai un problème d'intolérance au gluten, je dis on fait un petit test en laboratoire, on le sait. C'est pas la peine de se mettre au régime pour rien. Donc les gens se font des galères simplement parce que c'est mode, c'est tendance. Ça, j'aime pas ça du tout.
Stands forlorn, a symbol of the dawn. No milk today, it seems a common sight. But people passing by don't know the reason why. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know the palace that had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, it wasn't always so. The company was gay. Tonight, today. But all that's left is a place dark and lonely. A terraced house in a mean street back of town becomes a shrine when I think of you only. Just to up, to down. No milk today, it wasn't always so. The company was gay. We turn night today. As music played, the faster did we dance. We felt it both at once, the start of our romance. How could they know just what this message means? The end of my hopes, the end of all my dreams. How could they know a palace there had been behind the door where my love reigned as queen? No milk today, my love has gone away. The bottle stands forlorn, a symbol of the dawn.
No Milk Today, Herman's Hermit.
Je voudrais en venir à un sujet qui apparemment est très loin d'une autre, l'alimentation, mais vous avez évoqué en commençant le lien avec l'espérance de vie. Vous avez parlé d'une espérance de vie de 120 ans. Vous travaillez aujourd'hui sur, en dehors de votre travail de médecin hospitalier, de votre travail de pédagogue sur la bonne santé, vous travaillez sur un cas particulier. Et ce serait intéressant que vous nous en parliez, ce rat très particulier dont l'espérance de vie est particulièrement longue. Oui. Et on essaiera de voir s'il y a un lien avec l'alimentation.
Frédéric Salmann.
Alors, oui, le rat taupe nu, c'est passionnant. Je suis directeur scientifique de la Fondation de recherche en physiologie, qui travaille sur le rat taupe nu, qui était à l'Université catholique de Louvain. Alors, qu'est-ce qu'on fait dans cette fondation? J'ai découvert une petite souris, sans poils, qui vit en Afrique de l'Est, en Somalie, en Éthiopie. Et cette petite souris, elle vit 30 ans.
D'où son nom, rat taupe nu, en trois mots.
En trois mots. Et cette petite souris, elle vit 30 ans, alors que d'habitude, une souris vit 2 ans. Elle vit 30 ans en bonne santé. C'est-à-dire que ça correspond chez un humain comme si nous, on vivait 600 ans en bonne santé.
Est-ce que c'est lié à la longueur des télomères?
Alors, non. Enfin, les télomères restent longs tout le temps, mais surtout, ce qui est fantastique avec cette petite souris, qui a un code génétique proche du nôtre, d'ailleurs, on teste tous les médicaments chez les souris, c'est-à-dire qu'on est sur un modèle vraiment très 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 près de nous, elle ne vieillit pas, elle reste intacte.
Mais elle meurt brusquement après un certain temps?
Pas brutalement, au bout de 30 à 32 ans, à un moment donné, pendant quelques semaines, elle est moins rapide, la peau devient un petit peu plus fine et elle s'endort. À l'autopsie, il n'y a rien. Tout est comme neuf. Alors, en ce moment, on recherche la cause de sa mort. J'ai une petite idée derrière la tête. Et c'est grâce à une Néerlandaise qui est morte à 112 ans et qui, pour une fois, n'est pas morte de cancer, Alzheimer ou maladie cardiovasculaire. Et elle, coup de chance, elle donne son corps à la médecine. Et à l'autopsie, on a découvert de quoi les humains meurent un jour. Plus que deux cellules souches dans la moelle, on meurt parce qu'on a plus ces cellules souches qui forment les autres cellules. Donc, si on a vu d'ailleurs pour cette centenaire, si 50 ans plus tôt on lui avait prélevé des cellules souches qui se cryogénisent facilement, on aurait pu la refaire partir pour un tour. Donc, notre hypothèse qu'on va tester bientôt, c'est de regarder si chez les vieux rats taupe nu, il y a aussi un effondrement des cellules souches qui serait leur mort programmée. Alors, le rat taupe nu, il résiste au cancer. Quand on lui implante des tumeurs cancéreuses, il la rejette tout de suite, même violente. Il résiste aux cancérigènes chimiques. Les artères ne bougent pas, elles sont tout le temps comme neuves. Il n'a jamais d'Alzheimer ou d'équivalent. Quand on lui serre le cou pendant 18 minutes, normalement, n'importe quel cerveau, au bout de 2 minutes, c'est fini. Mais il repart intact. Le cerveau tient 18 minutes sans oxygène, sans la moindre lésion. Il résiste aussi à la douleur.
Et elle se nourrit de quoi?
Alors, végétarien, exclusivement, racines, plantes, tout ce qui est végétarien. Autre chose, alors, j'ai été chercher des rats taupe nu en Afrique de l'Est et on a créé avec mon collègue une animalerie à l'École nationale vétérinaire, la maison Alfort, où on a maintenant une centaine de rats taupe nu pour nos études. Et c'est la seule, d'ailleurs, animalerie de rats taupe nu en Europe. Et là, j'ai découvert un truc formidable. Les rats taupe nu n'aiment pas être en cage. Il faut une cage reliée par des tuyaux à une autre cage, et ainsi de suite. Eh bien, ils font du jogging toute la journée. Ils sont très sportifs.
Alors, est-ce que le fait d'être végétarien nous indiquerait qu'il vaudrait mieux être végétarien? Ça renvoie d'ailleurs à un mode de vie plus proche du mode de vie indien que du mode de vie occidental.
Alors, c'est plus compliqué que ça, parce que le rat taupe nu met des équations en nutrition qui sont des énigmes. Première énigme. Un rat taupe nu, ça naît complètement oxydé. Un taux d'oxydation, on dit, mais il va mourir. C'est pas possible. Eh bien, le rat taupe nu va traverser 30 ans complètement oxydé.
Qu'est-ce que vous voulez dire par oxydé?
Oxydé, c'est-à-dire que on appelle ça techniquement la carbonylation des protéines. C'est-à-dire qu'en fait, il y a un gros taux d'oxydation. Vous savez, la grande mode, c'est-à-dire manger des antioxydants. Vous avez sûrement entendu parler de ça. Antioxydants qu'on trouve dans les légumes, les fruits. Eh bien, lui, il en a... Il est très oxydé comme s'il n'en avait jamais mangé et il ne se passe rien.
C'est le no sport de Churchill.
Ah oui, non mais première équation, et là, on est là, on se gratte la tête, on ne piche pas. Comment? C'est comme si, à la naissance, il s'était déjà nourri de façon épouvantable et rien ne se passe. Donc, ça, c'est une première équation qu'on doit résoudre. Et la deuxième, elle est encore pire. On s'en est aperçu là. Ils boivent jamais.
Autrement dit, c'est tout le contraire de ce que vous venez de dire depuis le début de cette émission.
Vous savez, j'ai appris une chose avec mon métier, c'est vraiment la modestie. Vous savez, quand je vois le râteau de pneus, il ne boit pas.
C'est Churchill, quoi, c'est nos sports.
Il
ne
boit pas d'eau, rien. Il ne boit pas.
Il ne mange pas de protéines animales.
Non, il est oxydé, c'est comme si les végétaux qu'il mangeait servaient à rien. Mmh. Attendez, mais il nous met tout par terre.
Il vit en communauté?
Oui. J'ai été voir un copain qui a passé sa vie, qui était à Necker, à travailler sur justement les antioxydants. Et je lui ai dit, tiens, regarde ma petite souris. Il m'a dit, tu fous ma carrière en l'air. Parce que tout ce que j'ai cru s'avère un château de cartes.
Donc il y a forcément quelque chose.
Alors qu'est-ce que ça vous inspire?
Bon, moi d'abord, vous savez, je suis passionné parce qu'on est près d'un modèle qui détient la clé d'une longévité gigantesque. Ça donne le vertige. Il n'y a pas de journée où je n'y pense pas.
Vous pensez que dans le règne animal, c'est l'animal qui vit le plus longtemps?
Alors, non. Enfin, mais qui est très proche de nous. Et bien sûr, c'est une corrélation de ce type-là. Il y a des animaux qui vivent très longtemps. Il y a des poissons comme le sébaste à yeux épineux qui vit 200 ans. Mais on est loin du poisson. Mmh. On a les tardigrades qui sont... Des petits insectes.
Les tardigrades, c'est des minuscules insectes qui ressemblent aux cyanobactéries, enfin, qui sont et qui vivent sans eau du tout, et qui peuvent vivre 1000 ans même.
1000 ans, voilà. Mais c'est tellement loin de nous. On a trouvé des modèles, mais tellement éloignés. Jusqu'à une méduse, Turritopsis nutricula, elle avance jusqu'à maturité, et à un moment donné, clic, elle revient à la puberté, et ainsi de suite. Elle ne meurt jamais.
Mouvement perpétuel de la vie.
Donc, on a, dans ce que j'appelle le zoo de Mathusalem, plein d'animaux qui vivent longtemps. Mais le seul qui est tellement près de nous, cette souris sans poils, c'est un modèle qu'on peut appliquer à l'homme si on découvre sa clé.
Si j'ai voulu vous en faire parler, c'est justement parce que sur l'alimentation, elle remet en cause beaucoup de choses que nous croyons savoir.
Ah ben, je peux vous dire que quand je vois la façon dont le ratopnus nourrit, boit et vit, ça me déprime parce que je dis, mais il faut que je réapprenne tout. Faut tout réapprendre. Il a la clé. Parce que vous savez, on fait de la recherche sur le cancer, on fait de la recherche sur les maladies cardiovasculaires, on fait de la recherche sur Alzheimer. Et cette petite souris montre qu'elle résiste aux trois. Et en particulier au vieillissement.
Donc il y a quelque chose en elle qui est un formidable instrument bouclier.
Elle a un bouclier. Et vous savez, ça me fait penser au début du siècle dernier, tout le monde cherchait le virus du scorbut. Les bateaux arrivaient et on ne trouvait pas le virus ou la bactérie du scorbut. On les isolait, ils mouraient encore plus. Et un jour, il y a un gars qui a eu l'idée des vitamines. Et on a découvert que c'était une autre notion, la carence en vitamines. En mangeant des citrons, ils étaient guéris.
C'était ni un virus, ni,
ni une bactérie. Ni et là, par rapport à toute la recherche, Alzheimer ou cancer, on n'a pas trouvé la clé. Ni sur les maladies cardiovasculaires en termes pour les
régulations. Donc ça voudrait dire que l'espérance de vie serait liée à quelque chose d'autre qui n'a rien à voir avec tout ce qu'on croit.
C'est une autre notion. Et le rat obtenu détient cette clé.
Et les télomères, dont on dit qu'il est une des clés, ça ne vous paraît pas être lié au cas des rats obtenus?
Les télomères sont une conséquence.
Réexpliquez à nos auditeurs.
Les télomères, qu'est-ce que c'est? C'est des petits manchons qu'on a au bout de nos chromosomes qui ont été récompensés par 3 prix Nobel en 2009, donc c'est très robuste. Plus ils sont longs, plus on vit longtemps en bonne santé. Plus ils sont courts, plus on meurt rapidement de cancer, Alzheimer, maladie cardiovasculaire.
Et ils peuvent s'abîmer au cours de la vie.
Alors, ils raccourcissent. Si je vous fais un dosage de télomère tout de suite, j'aurai pas votre âge chronologique, mais votre âge biologique, le temps qui vous reste à vivre. Ça se fait par une prise de sang. Par contre...
Et ils repoussent?
Si on change un mode de vie, si on fait de l'exercice, si on perd du poids, si on dort mieux et qu'on se détend...
Si on mange mieux.
On mange mieux. En 10 mois, ils rallongent. Autrement dit, ça prouve que c'est un marqueur du bien-être dans notre organisme, robuste, solide. Les ratopnus ont des télomères longs, et je ne sais pas pourquoi, ils raccourcissent quasiment pas.
Donc c'est le fait qu'ils ne raccourcissent pas qui peut-être les relie.
C'est une conséquence. Visiblement, ils ont une clé. C'est comme si le vieillissement est bloqué. L'horloge, ils ont bloqué l'horloge. Et alors, on pensait que c'était impossible qu'un animal proche de nous, qui a à la fois des reins, enfin qui est comme nous à l'intérieur. Comment
un mammifère.
un mammifère, comment il arrête l'horloge, c'est que le tic-tac du temps qui passe est arrêté. Mmh. Il est suspendu une fois pour toutes.
Mmh. Alors vous avez dit qu'il était végétarien, qu'il ne mangeait pas de protéines animales. On a trouvé comme alternative aux protéines animales les insectes. Qu'est-ce que vous en pensez? Les occidentaux sont peu tentés pour l'instant. Qui est-ce qui remportera ce marché demain,
écoutez,
selon vous?
Écoutez, c'est Lévi-Strauss qui disait l'important n'est pas ce qu'on nous a mangé, mais ce qu'on nous donne à penser. Donc, effectivement, sur le plan protéines, il n'y a rien à dire. Mmh. Si c'est suffisamment cuit et stérilisé, je n'ai pas de souci. Niveau goût et niveau culture, il faut y aller. Hein. Moi, on m'a servi plusieurs fois des plats d'insectes.
Ça change de la crevette?
Ah, c'est difficile.
C'est une nourriture mexicaine particulière.
On peut y arriver. Hein. Ça peut être une solution. Mais
sur le plan de l'alternative, ça vous semble intéressant?
Culturellement, on aura du mal.
Est-ce qu'un végétarien manque de quelque chose?
Oui, c'est-à-dire qu'en fait, quand on commence à être végétarien ou végétalien, dans tous les cas, il faut quand même avoir des connaissances en nutrition parce qu'il peut y avoir des carences, par exemple en fer et autres. Donc en fait, je demande aux gens, quand ils me disent « je suis végétarien », de quand même discuter un petit peu avec eux pour leur apprendre à bien s'alimenter sans carence, parce qu'ils risquent d'avoir quelques manques. Dans certaines vitamines, là, ça devient un peu technique. Donc, le rat obtenu, en tous les cas, c'est un espoir formidable. Imaginez, demain, que vous avez 600 ans devant vous.
Imaginez une humanité à 600 ans devant nous, ce serait très intéressant. Certains diraient que c'est un cauchemar, je ne suis pas de cet avis, mais ça changeait en effet beaucoup de perspectives, ne serait-ce que en termes de taille de la population et en termes d'injustice entre ceux qui auront accès et ceux qui n'y auront pas accès. Et en termes de relations entre les générations, c'est vraiment un tout autre univers qui commencerait. Je ne suis pas sûr que celui qui nous donnera ce pouvoir ne sera pas maudit par l'humanité.
J'essaie de donner ce pouvoir, puisque je consacre la moitié de mon temps sur cette recherche, qui est extraordinaire. J'espère trouver, parce qu'en plus on est une très très belle équipe maintenant, tous bénévoles d'ailleurs. C'est passionnant, c'est la recherche, on est tellement prêts.
Et vous avez raison de dire que sans doute la réponse est très loin de la question. C'est-à-dire, il faut chercher ailleurs.
Oui,
parce qu'il y a une très belle réflexion talmudique sur pourquoi dit-on rien de nouveau sous le soleil. Les rabbins disent, mais on ne peut pas dire rien de nouveau sous le soleil, c'est absurde. On ne va pas penser que tout se répète à l'identique. Et nous, on dit, vous n'avez rien compris. Il n'y a rien de nouveau sous le soleil parce que le nouveau est au-dessus du soleil. Autrement dit, on trouve du nouveau qu'en changeant de paradigme. C'est un peu ça ce que vous cherchez.
Oui, c'est vraiment toute l'équipe qui travaille sur le rat opinion a le sentiment que nos outils actuels ne permettent pas de comprendre.
Est-ce que tout ce dont nous avons parlé, le sans gluten, le végétarien, les antioxydants, les oméga-3, on parle beaucoup de ça dans les médias, je trouve que les gens sont davantage informés qu'ils ne l'étaient il y a même encore 10 ans. Est-ce que ce sont des phénomènes de mode, selon vous? Est-ce que vous imaginez quelle sera la prochaine mode sur un plan nutritionnel, sur un plan alimentaire?
Je voudrais ajouter à cette question une réflexion sur ce qu'on appelle la nourriture bio, la disparition des engrais, la nourriture locale, etc.
C'est vrai que comme on vit plus vieux, dans certains cas, on va bio-accumuler des toxiques. C'est un vrai problème. Il y a des aliments que je bannis. L'anguille, par exemple. L'anguille, puis dans le lit des rivières, capte tous les toxiques. En un plat d'anguille, on peut absorber de la dioxine qu'on va mettre 7 ans à éliminer. Il y a de quoi se faire un cancer de la thyroïde.
Le corail des coquilles Saint-Jacques.
Exactement. Et il y a plein de pays qui ont interdit les anguilles. Qu'est-ce qu'ils font? Ils les exportent chez nous. Donc, il faudrait un tout petit peu gérer ça. Maintenant, il y a des examens nouveaux. Par exemple, si je prends le saumon, le thon, parfois c'est riche en métaux lourds, plomb, cadmium, mercure, qui ne sont pas terribles pour le cerveau. Mais il y a de nouvelles analyses qui vont sortir l'année prochaine, où avec un cheveu, pour une somme modique, on aura vos taux, par exemple, de métaux lourds, de tout ce que vous avez absorbé dans votre vie. Histoire de se dire, peut-être qu'il faut changer.
Ça renvoie à la médecine génétique future, c'est-à-dire là.
Pas génétique, enfin, toxique.
Toxique, mais qui vient de connaissances qu'on peut avoir individualisées.
On a fait des gros progrès aujourd'hui. C'est que les aliments, en termes d'hygiène, sont beaucoup, beaucoup mieux qu'avant. Par contre, les pesticides, c'est un sacré problème. Le bio, c'est une solution, mais on ne peut pas toujours manger bio. Il y a des efforts de fait, parce que comme on vit vieux, on va bio-accumuler les choses. Alors, il y a aussi des petites choses, j'en parle dans le livre. Par exemple, si on prend du cresson, il y a des aliments qui sont, par leur constitution, des boucliers antitoxiques. Si on prend une salade de cresson, ça chute de 30% le benzène qu'on peut retrouver dans d'autres aliments. Donc, on peut jouer aussi avec des aliments qu'on trouve au marché et qui ont des propriétés plutôt de nous protéger.
Est-ce que vous pouvez faire un lien entre notre culture occidentale et les autres cultures ? Est-ce que vous pensez qu'il y a des cultures qui ont des modes d'alimentation qui sont plus sains que d'autres ? Est-ce que, par exemple, le mode d'alimentation chinois, indien, africain serait plus sain ? Est-ce qu'on peut idéalement dire l'endroit au monde où l'alimentation est la plus saine ? C'est alors on a souvent inventé certaines régions de France comme étant liées à cela. On a inventé la Crète comme étant un lieu d'alimentation particulière.
Qu'est-ce que vous dites ? Alors, c'est formidable parce qu'aujourd'hui, quand on se promène dans les villes, dans le monde entier, on découvre la cuisine fusion. Il y en a de partout. C'est un mélange de pizza, de sushi, d'un peu de tout. Et ça correspond pas à la santé. Qu'est-ce qu'on a fait ? C'est qu'on a regardé dans tous les pays du monde comment certaines populations étaient protégées et vivaient plus longtemps par l'alimentation. C'est comme ça qu'on a découvert que les Japonais et les Esquimaux faisaient quasiment jamais d'infarctus du myocarde parce qu'ils consomment des poissons gras, crus, très souvent, contenant des oméga-3. Ces bonnes graisses qui protègent les maladies cardiovasculaires. Les Crétois, eux, ils ont un autre truc, l'huile d'olive, qui consomment beaucoup de légumes, des escargots, tiens, c'est des bonnes graisses aussi. Les Français, le petit verre de rouge, le chocolat noir. En fait, chaque pays a des trucs. Il y a même une famille en Sardaigne qui s'appelle la famille Mélos. Ils sont tous centenaires. Ils sont 8 ou 9, tous centenaires. Quand ils se réunissent, c'est pas forcément folichon. Mais ils mangent de la soupe minestrone, qui est leur pilier. Et cette soupe minestrone, elle est très intéressante parce que quand vous mangez un potage mixé, une demi-heure après, il sort de l'estomac. La soupe minestrone, c'est très très long à sortir. C'est plein de fibres. Et cette soupe minestrone, je la retiens au menu. Ça a un effet coupe-faim aussi. Donc en fait, il faut faire son marché. Et grâce aux études épidémiologiques internationales, maintenant, on peut prendre le bon truc de chaque pays.
Dernière question, même question qu'on va essayer d'avoir posée à tous nos invités. Si vous avez en une minute un conseil alimentaire à donner à ceux qui nous écoutent.
Ne mangez exclusivement que pour un vrai plaisir. Le plaisir peut être un régulateur incroyable. Plus vous montrez la barre, plus vous ferez du bien parce que vous donnerez le meilleur pour vous-même.
Un plaisir exigeant alors.
Un plaisir très exigeant, comme vous étiez critique gastronomique au Michelin tous les jours.
Merci Frédéric Salmann.
Merci Frédéric Salmann. Je rappelle le titre de votre livre, Votre santé sans risque. Vous êtes une force de la nature sans le savoir. Et c'est paru chez Albin Michel. C'était Le sens des choses à la réalisation d'Oria Zénine. À la technique cet après-midi, Célia Dufour. Je vous invite à vous rendre sur notre site internet franceculture.fr où vous retrouverez toutes les informations liées à notre invité. Vous pourrez également réécouter ou podcaster ces émissions. Et pour ceux enfin qui souhaiteraient nous écrire, voici une adresse email j@atali.com. Merci de votre fidélité. Très belle fin de journée à l'écoute de France Culture.